Vous écoutez
RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Nicolas Jamain.
Lionel Charbonnier, Daniel Riolo et Willy Sagnol, jusqu'à minuit, bien sûr. Materazzi, qui en veut à ses compatriotes italiens. On en parle dans un instant, bien sûr. Deschamps, interview aujourd'hui intéressante. Et puis, tiens, quelques infos, messieurs, avant de développer la dernière déclaration de Jean-Michel Aulas, sur Lyon déjà. Tony Parker, il avait déjà dit, il a confirmé aujourd'hui dans le Super Moscato Show, présenté par Adrien Aygouin, qu'il voulait succéder à Jean-Michel Aulas.
On l'avait compris bien, parce que ça fait quand même un paquet de fois que ça se dit. Hein.
Alors oui, Daniel, mais il apporte une précision, c'est pas que pour reprendre le club de l'OL, c'est pour être le président d'OL Group.
Bien sûr.
Une grande partie, OL Group,
venir même avec des investisseurs, enfin, et bosser, quoi, être le patron,
OL,
on a compris.
Foot et filles, hein, le foot, basket, ASVEL, c'est déjà le cas. La structure
déjà,
e-sport également, il a précisé, et les événements organisés au Groupama. Donc en mode vrai chef d'entreprise, tu vois.
Non, il vient pas pour faire Michelin de la compta, hein, il vient pour être le boss, on a compris.
Je sais pas si un jour
même les comptables Michelin
de la compta, je sais pas d'où vient.
Même les comptables.
Pourquoi ce prénom va si bien avec la comptabilité, c'est fou.
Ah, je sais pas, mais j'ai toujours appelé ça comme ça.
Un peu de Jean-Michel de la compta aussi. Jean-Michel. Jean-Michel Aulas qui, alors, lui nous a régalé pendant le confinement. Heureusement qu'on l'avait, hein, et qu'on l'a toujours d'ailleurs. Parce que tous les trois jours, on a au moins un truc à commenter.
Je trouve que là, en ce moment, il se calme. Il est juste venu me chercher sur Twitter. Là, j'ai pas trop compris pourquoi.
Quoi, quand?
Avant-hier.
Il s'emmerdait.
T'as dit quoi?
Énième feuilleton, énième épisode de notre feuilleton et de notre histoire amour, gloire et beauté.
Mais lequel? Ça portait sur quoi? Tu sais même plus, il y en a eu tellement, c'est pas grave.
Ah, je sais plus trop là sur le fait que j'ai dit que les présidents. En fait, il a un gros souci, c'est que il réagit à des bouts de phrases qui sont ressortis par Twitter.
On lui rapporte aussi peut-être.
Voilà, alors que parce qu'il est maniaque de Twitter, alors que si et à chaque fois je suis obligé de lui répondre que s'il écoute tout le passage en entier de ce que j'ai dit sur les présidents et sur la polémique dont on parlait, c'est pas exactement ce qu'il a compris, mais visiblement bon. Ça. Non, il veut pas quoi.
Bon, en tout cas, là on a bien compris ce qu'il pensait de Florent Maurice, qui je rappelle va rejoindre le Stade Rennais. Alors il met un beau taquet à un de ses enfants quand même, c'est comme ça dont il parle de lui. Il dit: chez nos confrères du Progrès, je lis tout, hein, c'est un tout petit peu long, mais bon, ça vaut la peine. Ça m'a beaucoup peiné, je l'ai eu comme joueur, je l'ai fait revenir, je l'ai mis dans le grand bain de l'OL, il était au plus profond du club, un endroit intime, je l'ai élevé, aimé, il nous tourne le dos le deuxième jour du confinement. Alors que 15 jours avant, il avait démenti l'information. Il ajoute: pour lui, j'avais imaginé Paris, Barcelone ou autre. C'est Rennes. Il faudrait espérer pour lui que Rennes devienne un très grand club. Fin de citation. Bon, les gars, je ne sais pas ce que vous avez demandé d'abord à Lionel ce qu'il en pense d'abord. Vas-y, Lionel.
Écoute.
Tu comprends la déception de Jean-Michel Aulas, j'imagine.
Oui.
Mais sa déclaration.
Oui, je comprends sa déception. Après sa déclaration, ce qui le vexe un peu plus, c'est que. Florian part pour Rennes parce que il doit se sentir nettement supérieur avec l'Olympique Lyonnais.
Ouais, compris,
et donc
oui.
Voilà, pour lui c'est dégradant.
C'est quand même normal qu'il se considère supérieur à Rennes. Voilà.
Oui, pas si tu regardes le classement, mais.
Bosser à Rennes, c'est pas la même histoire.
Donc lui, il imaginait le voir partir. Il y a rien qui me choque plus
je
que ça.
Je sais même pas s'il avait un plan de carrière pour faire un Maurice.
Non, pas du tout. Alors là, ça c'est du flan, ouais.
Pas mon petit.
Non, mais qu'il parte pour le Barça, qu'il parte, allez, même pour le PSG ou un club comme ça. Je pense qu'il l'aurait mieux pris.
Moi, je comprends les deux parties. D'abord, Aulas qui dit, il avait démenti. Enfin, tu sais, il sent que la parole n'a pas été totalement claire.
Mais Daniel, tout le monde donne des informations,
C'est pour ça que je te dis, je comprends les deux parties. Aulas qui quelque part se sent un peu trahi parce qu'il aurait aimé qu'il vienne lui dire, enfin, que ça se fasse autrement et tout. Et je comprends également Flo Maurice qui se voit confier un gros poste officiel de directeur sportif, alors que à Lyon, il avait été un petit peu rogné dans ses prérogatives parce que Juninho est arrivé, que Juninho c'est le directeur sportif et que Maurice a été un petit peu mis en arrière-boutique. Moi, franchement, je comprends les deux parties.
Mais il y a rien de choquant, franchement.
Il y a rien de choquant, voilà.
Je sais pas. Je sais pas. Enfin, à quoi s'attendre? Parce que le. Mais non, mais enfin. C'est comme dans n'importe quelle entreprise, messieurs. Quand tu progresses, à un moment, t'as envie de partir aussi, peut-être. Tu te sens un peu à l'étroit et le costume est plus assez grand pour toi.
C'est ça.
Ou
c'est
ça. Ton avenir est tronqué.
C'est pas choquant, ça, Nico.
Ben non. Ça, je comprends. Mais ce qui me choque, moi, c'est que Jean-Michel Aulas lui reproche ça.
Il lui reproche d'avoir
mais
dit deux jours avant
je suis bien patron,
il veut tenir tout le monde, il veut tenir tous ses employés, il veut tout tenir. Il veut pas qu'on le lâche, quoi. Et puis pire, attends, s'il était allé au-dessus dans les clubs dont il parle,
mais c'est ce qui va se passer, Nico.
Il aurait été encore plus voilà,
c'est ce qui va se passer. Là, c'est sur le fait accompli, il va lui dire après dans deux jours ou demain, il va lui dire bah merci, bon vent, merci pour ce que t'as fait. Pour moi ça va bien se passer. Ouais. Faut pas
enlever la com pour préserver l'image de Lyon, peut-être supérieur à Rennes selon lui.
Je le vois absolument comme ça. Pour moi, c'est
un avis là-dessus. Tu t'en fous? Non.
Je comprends. Non, je. Après, non, c'est les décisions des uns et des autres. Je crois que Florian Maurice, ça faisait longtemps qu'il était au même poste à Lyon. Même s'il va dans un club, en théorie, et aussi dans les faits actuels, inférieur à Lyon, c'est pour relever un nouveau challenge. Et l'être humain, il a besoin de challenge. On ne doit pas toujours. Il ne faut pas toujours qu'il y ait une vision de.
Oui.
Je dirais carriériste, de
prestige,
d'aller,
de
on va
club,
dire, de,
voilà.
De monter. À monter, non, c'est aller sur des projets différents. Regarde, comment il s'appelle Campos, il était conseiller du président, on va dire, allez, en directeur sportif de Monaco. Mais quand il est parti pour aller à Lille, il n'y a personne qui lui a dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre à Lille? Personne lui a dit ça. C'est parce qu'il était sur un autre projet différent, un autre challenge.
Un peu aussi,
oui, mais je veux dire, Campos, il aurait peut-être pu prétendre entre guillemets à un club peut-être plus élevé. Mais après, il y a aussi Flo, pour le connaître un petit peu. Flo, c'est quelqu'un aussi qui a besoin d'avoir, je veux pas dire d'avoir une tranquillité dans son travail, mais pas que tout soit remis en question. Un environnement serein, il a besoin de ça, et il aura peut-être ça à Rennes, et c'est ce que je lui souhaite.
Non, puis comme tu le disais.
C'est pas une régression, les gars.
Il change de statut, c'est-à-dire qu'il passe excusez-moi le terme, mais de sbire de Juninho à un club où il va être directeur sportif d'un club qui va faire devrait faire la Champions League.
Et d'un club qui va faire la Ligue 1. Et qui devient de plus en plus ambitieux.
Bien sûr. C'est un beau challenge. C'est un très beau challenge.
On verra au Rennes et au Lyon dans 4 ans aussi, effectivement. Et pour en discuter sur son choix de carrière. Tiens, Aulas dit également dans cette interview au Progrès que chaque jour qui passe nous rapproche peut-être d'un championnat qui ne se terminerait pas en 2019-2020. Voilà, ça c'est sa position.
De toute façon, à chaque fois qu'il dit ça, les autres présidents lui en veulent à mort. De toute façon, plus grand monde lui adresse la parole dans le foot, donc il peut continuer à dire ça.
Kingsley Coman, vas-y Daniel, finis.
Non, je dis les présidents à la Ligue, partout, on déteste quand Aulas dit ça. Parce que en gros, quand il dit ça, c'est comme s'il écartait toute l'importance qu'une reprise peut avoir. C'est comme s'il se désolidarisait. Parce qu'en gros, on sait bien que Lyon est l'un des clubs, l'un des deux, trois clubs, parce qu'il n'y en a pas plus de deux, trois, qui à la limite, si ça ne reprend pas, amortit sa chute. Pour les autres c'est grave, et en gros ça envoie le message, si les autres crèvent on s'en fout. Moi je sais pas être solidaire des autres clubs, c'est une démarche qui est très particulière, qu'il est le seul à avoir dans les gros, alors que tu pourrais penser qu'en tant que gros club il est solidaire, il dit non, il faut qu'on reprenne parce qu'il y a des clubs pour qui l'oseille c'est important, pour qui, alors que lui il sait très bien que c'est pas vital pour lui moins que pour les autres, et à chaque fois qu'ils s'expriment comme ça, les mecs sont fous de rage. River, tout le comité de pilotage là, ils sont dingues, et ils lui font savoir, et ça a créé des embrouilles dans les réunions. Aulas est absolument isolé sur cette question.
Après, il a quand même intérêt à poursuivre le championnat, thème de résultats et tout.
Attention, il y a deux étapes, il y a deux coups dans ce qu'il dit. Il y a d'abord le je ne suis pas solidaire avec les autres, et en gros, vous avez absolument besoin que ça reprenne pour vous financer tout. Et puis il y a, et en plus, il est le seul à s'exprimer pour dire cette chose-là, alors que les autres disent qu'ils veulent reprendre. Et après, il y a, mais de toute façon, rien ne dit que ce sera figé, les positions. parce qu'après lui se battra et il reviendra à sa première déclaration où il trouvera que c'est pas normal qu'on ait figé les positions. Il usera de tous les recours possibles pour proposer qu'on prenne le classement sur les 3 ou les 5 dernières années, bref, pour récupérer une place au classement. Rien n'est jamais anodin chez lui.
Bon, écoute, ouais, on verra. On verra dans quelques semaines. Pour l'instant, c'est vrai qu'on parle un peu dans le vide, on sait pas très bien ce qu'on va faire.
Ouais, mais sauf que lui, tout le monde parle dans le vide, t'as raison, mais lui, il se désolidarise toujours des autres.
Oui, mais il a un coup d'avance. Je sais pas s'il a un coup d'avance, mais.
Non, il a un coup dans son coin. Oui, mais le chef d'entreprise, quand il est dans une structure comme ça.
Comment il peut en tirer le meilleur également d'une période
En l'occurrence, de quelle façon il en tirerait le meilleur si ce n'est de regarder crever les autres? Par exemple, un concurrent comme l'OM qui a absolument besoin que ça reprenne et qui a besoin de l'oseille. Excuse-moi, mais moi je trouve que c'est une démarche. Lui, en tout cas, a une approche totalement néolibérale.
Ouais.
C'est-à-dire que je veux bien être celui qui réussit. Si l'autre crève, c'est pas grave. Alors oui, que dans le foot,
quoi, voilà.
C'est la règle du... Mais dans le foot, c'est pas vraiment ça. Si tu prends aussi bien la NBA, la Premier League, ne serait-ce que l'histoire du partage des droits télé, la façon dont c'est négocié collectivement, on n'est pas dans une approche néolibérale, justement. Lui, ça, il s'en fout complètement.
Tiens, mais justement, il y a un appel là, au 32-16 de Karim, supporter de l'OL. Salut Karim.
Salut, bonsoir.
Bienvenue dans l'After.
Salut Karim.
Salut.
Karim, routier, c'est ça ?
C'est ça, Précise. Tout à fait.
Bravo à toi.
Merci, c'est gentil. Vous aussi, bravo à vous, vous continuez à...
Oh, nous, c'est rien. Nous, c'est rien. Comparé à des mecs comme toi, on n'est rien, je t'assure.
Comment ?
Je dis, nous, comparé à toi, on n'est rien, je t'assure, par rapport au courage, à se mettre sur les routes et tout, je te promets.
C'est toujours sympa. Comme on est sur la route, on écoute.
Ah oui, ça, on est sympa. Oui, on est sympa.
Après Karim, si nous on arrête, les Français mangeront encore, je pense, a priori. Si les routiers arrêtent, on ne mangera plus. Vas-y.
Ouais, j'ai écouté là Daniel ce qu'il disait par rapport à Jean-Michel Aulas, qui dit ouais les autres présidents, il se met les autres présidents à dos. Ben moi je pense pas. Après il dit que ça va pas reprendre. Moi je pense pas que ça. Après moi j'aimerais bien que ça reprend. Mais comme le gouvernement et comme ça se passe, il y a plein de choses qui, il y a du flou, on sait pas.
Bien sûr qu'on sait pas, Karim. Moi je dis simplement ce qui se prépare. Moi je suis là juste pour j'essaye d'expliquer ce qui se prépare, ce qui se dit, quelle est la volonté générale et tout. Mais je suis pas en train de dire que oui ça va reprendre ou tout ça. Non. Ben personne le sait ça. Et en tout cas, ce que j'explique aussi, c'est que l'État pourrait imposer que ça ne reprenne pas pour des conditions sanitaires. Mais si l'État ne dit rien de ce côté-là, tout sera fait pour que ça reprenne parce que l'UEFA va demander à ce que ça reprenne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les autres pays sont en ordre de bataille pour que ça reprenne. L'Italie en parle, la Fédé a parlé aujourd'hui à ce sujet en disant on y va, l'Espagne on y va, les Allemands sont déjà à l'entraînement, les Anglais encore sont pas positionnés, ça réfléchit encore là-bas. Voilà.
Mais toi, à ton avis, qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport avec tout ce qui se passe? Tu crois que ça va reprendre? Déjà rien, par rapport au travail, les écoles et tout, on sait pas. Et le foot, ça vient après. Mais moi, je viens de te répondre, Karim.
Je te dis pas que je sais si ça va. Moi, je sais juste ce qui est en train de se préparer pour qu'éventuellement ça reprenne. Mais moi, personne ne sait si ça va reprendre. Oui, on espère, si tout est safe.
Et à ton avis, Jean-Michel Aulas, tu crois qu'il espère quoi? Que ça reprend? Il y a quand même 10 points. On sait jamais.
Ça, je me le demande.
Moi, je suis pas certain. Daniel, écoute-moi, je t'écoute tous les soirs. Je te dis franchement, il y a des fois tu vas un peu trop et que Jean-Michel Aulas, dès qu'il dit un mot, c'est la vérité, prends-le pas mal, on discute.
Mais t'as raison.
Je t'écoute tous les soirs. Toi,
pas de problème, Karim.
Avec Jérôme, tous les soirs, je vous écoute. Et alors, la preuve, là, il a juste dit un petit truc sur Florian Maurice, ça l'a un peu touché. Bon, toi, t'as rien dit, mais
j'ai pas été négatif là-dessus.
Non, t'as pas été négatif, mais l'autre, tout de suite, il a dit... Mais
l'autre, c'est moi, je crois.
Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, c'est pour ça. Corentin. Tout de suite, t'as voulu mettre la polémique. Il y a pas de polémique.
Non, on n'a pas fait de polémique. Tout le monde a dit que c'était pas grave. Willy, Lionel, personne.
Corentin, il a dit c'est dérangeant qu'il dit ça. Il a rien dit.
Corentin, il a du mal à comprendre, effectivement. Bah, après, il y a toujours deux lectures à avoir pour Jean-Michel Aulas. Il faut lire entre les lignes.
Karim, excuse-moi, avoue que t'abuses un peu parce qu'on est quand même quatre. On est trois à avoir dit, laisse Nico avoir une opinion. Nous, on est trois quand même à dire que c'est anodin, que c'est pas. Il faut, tu vois, voilà, c'est normal.
Je suis d'accord avec toi. Mais ça sert à rien de faire de la polémique où il y en a pas.
Il y en a pas.
Jean-Michel Aulas.
Non, mais c'était pour lancer le débat.
C'est hein non, mais c'est... il a lancé le débat, c'est tout. Il a juste lancé le débat.
Il n'y a aucune intention de créer une polémique, Karim, certainement pas. J'ai juste que, bon, c'est dommage de saluer comme ça le départ d'un de ses salariés qui a pour le coup bien bossé par une déclaration. Allez.
Écoute, moi, je suis d'accord, mais tu sais quoi? Peut-être qu'il. Mais comme il dit Jean-Michel, après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, on n'est pas avec eux. Mais si, deux jours avant, il lui dit ouais, mais c'est bon, je reste. Et après, tu pars. Tu peux lui dire écoute, j'ai envie d'aller voir ailleurs, je veux prendre un autre challenge. Voilà, il n'y a pas de problème, je pense, non?
Ouais, ouais, exactement, on est d'accord là-dessus. Hein. Tout le monde est d'accord. On est tous d'accord.
Voilà. Et après, moi, sur le championnat, que Daniel, il dit ouais, que Jean-Michel Aulas, il s'en fout que les
autres. Non, j'ai dit, je n'étais pas sûr. Oui, je comprends ce que tu dis.
Voilà.
Oui.
Mais après, Jean-Michel Aulas, lui, il a suggéré son club. Ça fait 30 ans. Si les autres présidents, ils ont fait comme lui quand il parlait à l'époque, quand les autres, ils voulaient se battre, tout le monde lui riait au nez. Quand les autres, quand ils voulaient faire l'Europa League, ils se battaient, mais en fait, après, ils la jouaient pas. Il y a plein de trucs. Bah après, qu'est-ce qu'il fasse, lui? Il regarde son intérêt de son club. Comme les autres, ils regardent tous les intérêts de leur club.
Oui,
boîte, elle va couler. Tu vas pas regarder ma boîte à moi aussi.
Oui, non, mais attends.
Sauver ma boîte.
Pour le coup, Daniel ne condamnait pas ça. Il explique une stratégie ou une position, en tout cas.
Voilà, c'est plus ça, Karim. Et plus globalement, moi, je pense que, si t'es dirigeant de club, en fait, tu as pas intérêt réellement à ce que tes concurrents s'écroulent, parce que ce qui fait la richesse d'une compétition et ce qui finalement rapporte, même d'un point de vue financier, c'est quand il y a des rivaux, quand il y a des rivalités, quand on se tire la bourre. Et lui, dans le discours qu'il tient depuis le début de cette crise, j'ai l'impression qu'il dit moi j'ai bien travaillé, moi si jamais on reprend pas, je vais pas souffrir comme vous. Donc en gros, tant pis pour vous. Et en gros, il se désolidarise de tous les autres. Je trouve que c'est dommage parce que finalement, tout le football français dans son ensemble a intérêt à. C'est d'ailleurs ce que je reproche. C'est ce que je reproche dans la gestion du football français en règle générale, c'est qu'il n'y a pas assez d'unité pour faire grandir économiquement et commercialement le football français. C'est que tout le monde pense toujours un petit peu trop à sa gueule dans notre football. C'est tout.
Voilà, mais il n'y a pas que Jean-Michel Aulas.
Non, mais bien sûr que non. Bien sûr que non.
Non, mais il a un côté, les gars, Jean-Michel Aulas, il a un côté premier de la classe. Là, tu sais, au premier rang, la prof annonce une interro surprise. Attends, Karim.
Ouais, excuse-moi.
La prof annonce une interro surprise. Tout le monde se plaint. Attendez, on n'est pas prévenu. Et je vois bien Jean-Michel se retourner, il fait bah les gars, fallait bosser, moi j'ai révisé.
Il balance au prof.
En plus, si tu veux.
Après, moi je pense que c'est quoi son intérêt, Daniel? Je pense que son intérêt, c'est de finir la saison. On sait pas, comme il peut être plus haut, comme il peut être plus bas, comme il peut, on peut pas être européen. Je pense que pour tout le monde, mais même pour lui. Mais après, si ça se finit pas, bah lui il a bien bossé, bah. C'est malheureux, hein, je vais te dire franchement. C'est malheureux, bah tant mieux pour lui. Hein. Lui, il a su gérer. Si les autres, ils savent pas gérer,
il n'était pas que coupable qu'il n'a pas réussi à gérer un club. Il y a des histoires de clubs différentes aussi. Merci, Karim.
Oui, voilà.
Merci, Karim.
Ouais, c'est gentil.
T'es sur la route, Karim. T'es où?
Ouais, je suis sur la route. Là, je suis à Dijon. Je suis au-dessus de Dijon et je monte à Lille.
Très bien.
Ah, bah, courage.
Tu vas, courage.
Tu vas passer vers chez moi.
Bah ouais, moi je vais à l'Équin.
Eh bah arrête-toi.
Voilà.
Bah je vais aller dans un coup, y'a pas de problème. Si tu m'invites.
Allez, un petit chablis sur la route.
Il y a pas de problème. Bah ça marche, allez, continuez bien.
Salut Karim.
Tiens les gars, puis une dernière info, effectivement, je voulais en parler avec toi, Willy, notamment. Kingsley Coman, je sais pas comment on dit.
Bref, comment?
Comment, t'es sûr de ça?
Lui, il préfère qu'on dise Coman, mais en français, ça se dit comment.
Ouais, comment.
Mais lui, il préfère qu'on dise Coman.
En tout cas, Coman, il va se prendre une amende pour indiscipline. Parce qu'il est venu à l'entraînement du Bayern, pas avec la bonne voiture. Voiture du partenaire du Bayern, à savoir une Audi, mais il est venu avec une McLaren. 50 000 euros d'amende.
Ah ouais. Alors, c'est normal, ça a toujours été comme ça.
Il faut simplement savoir. Bah, 50 000 euros, j'ai regardé, c'est un quart du prix de sa voiture.
Non mais les gars, en Allemagne, on dit toujours, les amendes elles sont plus hautes qu'en France. Mais il y a le code du travail en Allemagne qui est différent de la France. En France, tu peux mettre qu'une amende qui correspond à une semaine de salaire d'un joueur. En Allemagne, c'est un peu différent. Il n'y a pas de limite. Mais il faut savoir. savoir que Audi, c'est pas juste un sponsor du club, hein, les gars. Audi, ils possèdent 9% du club. Ils ont payé 120 millions d'euros pour acheter 9% du club. Donc, c'est pas simplement un sponsor. C'est aussi un des proprios, entre guillemets.
Voilà, voilà. C'est clarifié par Willy. Merci. T'as déjà pris une amende au Bayern, Willy, ou pas?
Par rapport à ça, non.
Non, mais autre chose.
Oui.
Pourquoi Willy?
Je vais pas te demander.
Après un match.
T'étais torché.
Non, c'est un match où c'est quand je revenais de blessure, après ma grave blessure au genou. Je revenais de blessure, l'entraîneur m'avait fait jouer milieu de terrain. C'était Otmar Hitzfeld et j'avais pas été bon du tout, j'avais même été une catastrophe. Et à la fin du match, un journaliste m'avait posé la question, m'avait dit ouais, c'était étrange, pourquoi on vous a fait jouer milieu de terrain alors que vous reveniez juste de blessure, vous auriez
le piège, j'étais tombé dans le piège de la question.
J'ai plongé. Aïe, c'est sûr. Et je me rappellerai toujours la réponse, c'était un truc, c'est tout con, mais j'ai dit c'est sûr, si Luca Toni se blesse, on va pas le faire jouer arrière gauche quand il va revenir. J'ai dû prendre 20, 25 000, je sais pas, mais c'était tout à fait mérité. Voilà.
Ben voilà. Lionel, impeccable.
Non, j'ai pas eu de.
Même pas Giroud, rien.
J'ai failli avec Advocate. Mais
tu l'as pas frappé.
Ah, c'était à deux doigts, je peux te dire, c'est le.
Mais est-ce que ces amendes-là existent en France, Lionel? Est-ce que vient de nous raconter Willy, c'est-à-dire, je réponds à une question de journaliste qui est finalement dans ma réponse. Mais t'as vu, finalement, ce qu'a dit Willy, ça pouvait sembler.
Si tu remets dans le contexte en France, tu prends pas une amende pour ça.
Voilà, c'est un des problèmes qu'on a dans notre football.
Tu prends pas une amende pour ça.
On a l'impression que c'est un peu pourri. On a l'impression que c'est rien.
Après, pour le respect des partenaires et tout ça, oui, tu dois prendre une amende. Ouais, bien
non, évidemment. Moi, je parle pas de la bagnole. Moi, je parle de son entraîneur, ce qu'il dit.
Ouais, et je me rappelle, j'ai même pris un match de suspension par le club. Et tout à l'heure, on parlait de ce club. C'est l'année où on jouait la Coupe de l'UEFA avec le Bayern ou de l'Europa League, je sais plus si ça s'appelait, enfin la Coupe de l'UEFA. Et le match était à Rétafé. Même je m'en rappelle. Et je suis resté chez moi à Munich.
Bon, c'était pas si mal.
Quand même. Hein.
J'aurais aimé jouer. Mais on m'a dit, tu restes chez toi. Pour ce match, tu viens pas.
T'as accepté la décision, en tout cas. Tu t'es plié à la
sanction. Mais c'était normal. J'avais remis en cause la légitimité de l'entraîneur. Donc c'était tout à fait normal.
J'ai eu les excuses de l'entraîneur.
Nous, on s'en fout. Ça. Racontez-nous ce que vous pensez après un match. C'est très bien. Ça nous fait des talks dans l'after et pas que. Merci. Non, c'est pas fini, les gars. Dans un instant, arrive Simone Rovera avec les déclarations de Marco Materazzi qui ont beaucoup fait réagir, les gars. On va me dire, tu veux encore faire une polémique? Non, c'est intéressant. Ce qu'a dit Materazzi sur son après-finale de Coupe du Monde 2006, ça peut en surprendre beaucoup. Simone sera avec nous pour le détail. Et Deschamps également, est-il pragmatique? Pas tant que ça, dit-il. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot. Nicolas Jama.
Daniel Riolo, Willy Sagnol, Lionel Charbonnier, ensemble jusqu'à minuit. Bien sûr, on parlera tout à l'heure, on va débriefer l'interview du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Mais d'abord, j'accueille Simone Rovera. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Ciao Simone. Ciao
Simone.
Ciao Simone.
Tout va bien Simone?
Ouais, tout.
Pas trop long?
Tout se passe bien. Tout se passe bien. On ne dort pas beaucoup, mais.
Moins mal.
Bien.
Moins mal. Voilà. C'est ça.
Dis-moi, comment s'organise en Italie? Est-ce qu'il y a des dates avancées? C'est Lionel qui posait la question sur l'Angleterre notamment, tout ça. Est-ce que des dates sont avancées pour la reprise des entraînements ou en tout cas du championnat?
Alors déjà, il y a pour l'instant une prolongation du confinement jusqu'au 3 mai. Donc on parle d'une reprise, pas seulement des entraînements, mais de la vie un peu plus normale dans certaines régions à partir du 4 mai. Et on prend ces 4 mai comme date autour de laquelle il y a les débats en Italie aujourd'hui, parce que on attend de voir, mais ça devrait être les jours donc de reprise des entraînements. Évidemment, pour reprendre les entraînements les 4 mai, il faudra faire avant une sorte de test physique médicaux pour tous les personnages liés au football, pas seulement les joueurs, parce que on parle de faire, mise au vert, une stage de reprise où tous les personnels qui gravitent autour du club, donc les attendants, les préparateurs, les kinés, soient dans cette mise au vert. Total, on part de environ 1500 personnes liées au club de Serie A qui doit rester bloqué pour 2 semaines pour être sûr que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de comptage, et en attendant que en 2 semaines, donc à partir de 4 mai, pour 2 semaines, la situation devient vraiment meilleure. Donc oui, on a une date, c'est pas encore officiel, parce qu'on attend de voir les prochains décrets du Premier ministre qui va dicter un peu la ligne sur cette phase 2 qui doit être la reprise un peu plus totale, normale de la vie du pays.
Moi j'ai entendu Simone et que ça reprendrait aux alentours du 31 mai.
Il y a deux hypothèses. Pour l'instant, on part du 31 mai pour la reprise avec les matchs en retard. En Italie, on doit jouer encore 12 journées de championnat, plus une journée avec 5 matchs en retard. Il y a une autre hypothèse de commencer un peu plus tôt, c'est-à-dire autour de 27-28 mai, avec les deux demi-finales retour des Coupes d'Italie. Bien évidemment, on parle de jouer tous les matchs qui restent à huis clos. Il y a aussi une hypothèse qui a été sortie aujourd'hui un peu plus de façon officielle, mais c'était déjà un peu en off, ça circulait, qui arrive d'une personnage de l'Organisation mondiale de la santé qui fait partie du staff technique et médical qui gravite autour du Premier ministre italien, donc qui donne les conseils. Et c'est de jouer qu'au sud et centre d'Italie tous les matchs pour éviter tous les zones.
Là, il y a eu moins de foyers de contamination.
Voilà. La Lombardie, le Piémonte, c'est une région extrêmement touchée qui continue à avoir une augmentation en pourcentage plutôt inquiétante des cas, mais ça reste quand même une région où il y a la Juve et le Torino, la Lombardie, Milan, Inter, Atalanta. Donc, il y a cette hypothèse de faire jouer les matchs au sud, au moins.
Et à huis clos.
Et bien sûr.
Et à huis clos. J'ai vu aussi qu'il y aurait une projection. Pour l'instant, c'est qu'une projection, mais vers ouvrir les tribunes, pas avant le 31 mars 2021.
Oui, c'est pas avant les 2021. Toutes les activités, on parle aussi de certaines activités.
Exactement.
Les boîtes de nuit.
Ouais, tous les concerts, tout ça.
Les choses de divertissement. Ça doit être pas avant 2021, donc c'est long, il faut terminer une saison, recommencer la suivante.
Parce que huis clos, on va en bouffer.
Apparemment, c'est parti comme ça. Enfin, c'est de source. Moi, c'est de source d'équivalent d'OMS, quoi, mais en Italie.
Non, c'est
une lettre officielle.
Par contre, les institutions du foot sont d'accord sur le fait qu'il faut continuer. Les présidents de la fédération continuent à dire on a les temps, les championnats doivent être terminés. Il y a même l'espoir qui le président de la fédération Gravina qui a dit de jouer les matchs au nord déjà mai-juillet, donc soit au début de mai, soit au début de juillet, donc d'avoir quand même des matchs aussi au nord. Par contre, les comités olympiques italiens et d'autres personnages du monde du sport, pas forcément liés au football, sont un peu plus critiques en disant que en Italie on se préoccupe trop du football et que ça doit être un peu mis au niveau de tous les autres sports. Ça, c'est le président du comité olympique italien, Giovanni Malago, qui l'a dit. La réplique du président de la fédération a été très, très, très dure en disant c'est bien évident que le football n'est pas comparable à tous les autres sports pour les intérêts qu'il y a au niveau médiatique et économique. En Italie, on calcule que les produits football, c'est environ 5 milliards d'euros par an et donc 1,2 milliard d'impôts payés à l'État. C'est quelque chose, ça fait du football une des premières 10 entreprises, on peut dire, italiennes. Donc c'est bien évidemment différent de tous les autres sports.
Bon, le président de la Fédé italienne dit également aujourd'hui que ceux qui sont contre une reprise de la saison n'aiment ni le football ni les Italiens. Peut-être un petit peu loin quand même, mais bon.
Les footballs quand même c'est quelque chose de très important dans le monde italien. On peut arrêter tout, les volleys arrêter la saison, les baskets arrêter la saison, les rugby aussi si je ne me trompe pas, mais arrêter le football, il faut vraiment des lourdes conséquences.
Le débat existe évidemment. Bon, ce qu'il faut aussi parler chez toi Simone, ce sont les propos de Marco Materazzi. Qui a mal vécu l'après-finale 2006 qu'il a remporté, on le rappelle. Je donne juste une citation et tu peux donner le reste, qui résume bien sa pensée. Zidane a été protégé par les Français, mais j'ai été fracassé par mes propres compatriotes.
Bah oui, alors bien évidemment, il a dit ça. Il faut rentrer un peu plus dans les débats. Et je veux dire qu'en Italie, on parle aussi beaucoup de ces phrases sur l'effet qu'il a frappé.
Oui, ça le donnera après. Balotelli, vas-y. On dira après.
Voilà. Mais pourquoi ça s'est revenu, le fait de Balotelli? Je n'ai pas trop compris le contexte.
Bah, alors, la vérité, c'est que dans ces moments, en Italie, oui, je ne sais pas, en
on
France...
On ressort des histoires, quoi.
Bah, il y a des lives Instagram de très très haut niveau pour les amoureux joueurs, du football. Ah, des joueurs, là, il y a eu des lives Instagram entre Materazzi et Cannavaro. Il y a Totti qui l'a fait avec d'autres joueurs. Il y a Luca Toni, Aquilani... Il y a quelques jours, une vingtaine de minutes magnifiques, peut-être plus, entre Dybala et Del Piero. Donc, c'est-à-dire, si on aime un peu les histoires de football, on peut en trouver des tonnes en ces moments-là, parce que les footballeurs sont en première ligne.
Léon se délie aussi, oui.
Bah, il y a eu un délire incroyable de Vieri avec Cassano il y a deux jours, je pense. Extraordinaire. C'était du football, pas du football. Ouais. Et il y a des personnages...
Oui. Vas-y sur Marco, recentrons sur Marco Materazzi.
Oui, voilà. Donc, Materazzi, pour arriver au discours, Materazzi, il dit avoir vécu mal cet après-Coupe du Monde. Il fait aussi des noms en disant qu'à l'époque, l'ancien président de la République, Cossiga, était critique vers lui, même un acteur très connu. En vrai, Marco Materazzi...
Parce qu'il avait provoqué, c'est ça? Parce qu'il avait provoqué?
Ben oui, parce qu'il avait provoqué, parce qu'il n'avait pas été célébré un peu comme une des héros de cette Coupe du Monde.
Moi, je trouve ça, je trouve que c'est formidable. Continue, mais je trouve que cet échange est absolument formidable quand on sait ce qui s'est passé en France par rapport à Zidane.
Vas-y, Simon.
En gros, c'est un peu le monde à l'envers.
Oui, c'est ça. C'est ce que dit d'ailleurs Materazzi.
Vas-y, continue, voilà. Simone, excuse-moi.
Non, et Marco Materazzi, c'est bien sûr qu'il a vécu mal parce qu'à niveau populaire surtout, il n'a jamais été reconnu un peu comme une des grands protagonistes de cette Coupe du Monde. Le fait qu'il avait eu ce rôle de provocateur envers Zidane, quand même, lui a coûté cher à niveau des sanctions. Il faut bien se souvenir qu'elle a été suspendue pour deux matchs. Première fois dans l'histoire de prendre deux matchs pour une provocation et quand l'autre prend trois matchs. Donc,
quelque chose qui est assez basique dans le football, finalement, de provoquer l'autre, de parler, c'est un basique.
Voilà. Donc, la presse italienne, quand même, c'était plutôt mis du côté de Materazzi, totalement, sur l'effet de matchs de suspension. Mais à niveau du grand public, à niveau des supporters, Marco Materazzi n'a jamais été vraiment aimé. Tout au contraire, c'était un joueur qui, depuis les débuts des années 2000, c'était un joueur sur lequel on faisait énormément d'ironie. Allez vous chercher sur Internet tous les choses qu'il y a sur Materazzi boucher, Macellaio, Materazzi méchant, ses fautes sur Shevchenko dans les derbies. C'était un joueur qui n'était pas du tout aimé par les publics des autres équipes, surtout la Juve, surtout Milan aussi. Donc, il y a plein d'histoires sur Materazzi, sur des fautes sur Inzaghi, sur le fait qu'il était trop rugueux dans ses interventions. Il ne pouvait pas être aimé. Il était aimé par les supporters de l'Inter.
Déjà, à la base, c'était un mec qui n'était pas aimé en Italie, à part par les supporters de l'Inter. Voilà.
Bien sûr.
Simone, il dit, attends, quand même une déclaration de Materazzi, là, il dit « Je suis un patriote ». Tu vois, il met ça sur le terrain du patriotisme. Et j'ai toujours défendu les couleurs de l'Italie. Leur critique, c'est ce qui m'a fait le plus mal après cette Coupe du Monde. Ces personnes auraient dû embrasser le sol que je foulais, vu que j'ai marqué le but égalisateur.
C'est pas faux.
Il réclame presque une réhabilitation, ou en tout cas, voilà, une nouvelle popularité.
Après, je pense que lui, Marco Materazzi, s'est trompé sur une chose, parce qu'il y a certains personnages du monde de football, il y a eu tout de suite comme Rivera, Mazzola, mais même Paolo Maldini avait dit que c'était scandaleux les deux journées de suspension qui avaient pris Materazzi. Donc il y a eu un monde de football qui s'était mobilisé pour Marco Materazzi derrière cette scandale, pour moi, des journées de suspension. Mais c'est vrai que Marco Materazzi, à différence de Totti, Del Piero, de Fabio Grosso, Buffon, n'a jamais été un des héros pour les peuples italiens, pour moi, de cette Coupe du Monde. Et je pense qu'il regrette ça, en vrai. Ouais. Lui, il met ça sur tout dans la poche, on peut dire, de l'affaire Zidane-Materazzi. Mais je pense que même sans cette affaire-là, difficilement, Marco Materazzi aurait été une des grands gagnant de la Coupe du Monde, même si avec deux buts, il a été meilleur buteur avec Luca Toni entre les Italiens. Et en plus, il marque le but en finale et il met une des pénalties. Donc, logiquement, il aurait dû être une des grands héros de cette Coupe du Monde.
Tiens, Simone,
il n'a jamais été.
Simonet, on a la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui a joué, qui était sur le terrain ce jour-là, c'est Willy Sagnol. Willy, qu'est-ce que t'en penses, toi, Willy, de cette déclaration de Materazzi? Ou peut-être, effectivement, de l'opposition entre un Zidane même clairement défendu après la finale en France.
Défendu une demi-heure après le coup de sifflet final par le président de la République en personne.
Ouais, par Jacques Chirac
défendu
à l'époque.
Par unanimité de la population pour dire
unanimité,
qu'il avait bien
non.
agi.
Non, non, attends, alors, Daniel, pas unanimité, hein, c'est pas vrai.
C'est une blague ou quoi?
Mais t'avais pas 100% des Français qui disaient bravo Zidane, t'as bien
alors,
fait.
Alors attends.
Je sais pas avec qui t'as vu le match.
Nico. Globalement, alors on va dire une majorité.
Globalement, c'est différent.
Une majorité. L'ont excusé, le président de la République l'a excusé. Je te rappelle une anecdote que tu as peut-être oubliée parce que tu es plus jeune que moi. Mais l'équipe, le lendemain, a fait un édito, c'est de Claude Droussan, pour dire que le geste était coupable. Surlendemain, intervention de sponsor important du journal. Le surlendemain, donc plutôt deux jours, le surlendemain, édito où finalement on réhabilite Zidane. Voilà ce qui s'est passé quand même en France à ce moment-là. Parce que c'était, en gros, Dieu sur terre dans le pays.
Ouais.
À l'inverse, tu as de l'autre côté, mais après, la popularité des deux joueurs était pas du tout la même.
Le problème de Materazzi, c'est que c'est pas Zidane à l'époque.
Materazzi, c'est que, en Italie, c'est considéré comme une petite frappe. C'est un mec qui était pas aimé, sauf parce que c'est le genre de défenseur un peu rugueux qui est aimé par les mecs dans des supporters du club dans lequel t'es parce que tu te bats pour le maillot, tu donnes l'image, hein. Mais sinon, il était pas beaucoup aimé. Et donc, lui a peut-être souffert de ça. Mais moi, je te parle de la différence de traitement. Et souvent, on dit, soit les Italiens, justement, aiment les mecs rugueux, ou les gars qui provoquent, ou c'est des truqueurs et des tricheurs. Ils ont là la preuve que non seulement c'est pas vrai, mais que deux, il n'y a pas de chauvinisme stupide et exacerbé partout, forcément. Moi, le chauvinisme, c'est un truc que je
supporte pas. Oui, mais t'as raison, Daniel. Mais bon, là on parle de Materazzi. Si Buffon avait fait ça, par exemple, s'il avait fait péter un câble à un
international français. Oui, je suis d'accord.
Mais l'image n'est pas la même. Peut-être
tu vois, Buffon. Peut-être que l'image n'aurait pas été la même.
Si avait été Cannavaro.
Peut-être. Mais n'empêche que c'est quand même une finale de Coupe du Monde et que le mec se fait un peu tailler alors qu'ils sont champions du monde et que de l'autre côté, celui qui fait un geste, qui répond à un geste violent, participe à la défaite de l'équipe et.
Oui, il y avait une approche morale en Italie qui était moins en France à ce moment-là. Willy, vas-y, sur le sujet.
C'est clair, c'est tout a été dit. C'est vrai qu'il y a eu une approche peut-être morale en Italie, et il y a eu une approche, on va dire politique, en France.
Absolument. Il faut oser le dire.
Parce que non, mais c'est pas oser, c'est pas mal de dire ça, parce que Zizou, notamment depuis 98, représentait, je dirais, on va dire la réussite de la mixité,
représentait
vraiment un symbole par rapport à ça.
Ouais, mais donc, c'est là qu'on mélange tout en fait. Si tu dois considérer que tout le monde se vaut et que justement il y a pas de différence et qu'on ne doit pas faire de différence entre les gens et leur origine, ben justement.
Oui, mais là, il y avait la fin qui entre en compte. Vas-y Willy, fini.
Non mais là c'était extrêmement compliqué parce que c'est vrai que tout ça a été politique.
Moi, je
tout simplement
dis,
tout a été orienté
pour ne pas froisser une partie de la population.
Tout a été fait pour que ça se passe parce que une icône tu la remplaces pas. Donc ça a été fait pour ça. Donc dans le même temps, tu étais en train de dire à tous les gamins qui jouent au football de 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, vous inquiétez pas les gars, sur un terrain, si vous avez un problème, vous pouvez mettre un coup de poing, tout passe. Donc ça a été
franchement... Derrière, il y a eu des chansons, vous vous souvenez des chansons pour glorifier le geste.
Après,
tous les éducateurs qui venaient, je me souviens quand on en parlait et tout, les éducateurs venaient dire, mais vous vous rendez pas compte de ce qui s'est passé, il y a des gamins qui mettent des coups de boule, qui disent que si on insulte ta mère ou ta sœur ou je ne sais quoi, tu dois répondre par la violence. Mais on a oublié tout ça parce que le temps passe et on oublie.
Mais parce que c'est je pense que sincèrement, je pense que ça serait aujourd'hui, ça se passerait aujourd'hui, 14 ans plus tard. Je pense que ça serait différent parce que aujourd'hui t'as des dynamiques différentes. Aujourd'hui c'est les réseaux sociaux entre guillemets qui décident de plein de choses. Les réseaux sociaux.
Messi est un joueur à lambda qui vaut rien au niveau médiatique. mais en rapport à lui, hein, et Materazzi volait quelque chose, mais pas rien en rapport à Zidane, ce serait la même chose. Ce serait Messi sauvé par l'opinion publique et les joueurs coupables.
Ouais, mais l'opinion publique, elle est versatile. Et je pense que, voilà, je sais pas si aujourd'hui ça serait la même chose. Après, pour en revenir au débat, parce que c'est le débat de Materazzi qui nous intéresse. Que Materazzi, alors c'est très simple, il a insulté Zidane, ce qu'il lui a dit, j'en sais rien. Mais je pense que à peu près dans chaque match, oui, il y a à peu près 500 insultes qui fusent, oui, par match.
Bien sûr.
Mais la chose que je peux te demander,
aujourd'hui, moi, d'un côté, je comprends pas les Italiens qui aient reproché à Materazzi d'avoir insulté quelqu'un d'autre et de l'avoir provoqué de cette sorte, parce que la provocation, elle a toujours fait partie du jeu. Aujourd'hui, regarde, quand tu sais lire un petit peu sur les lèvres ou quand tu arrives un petit peu à deviner.
Mais tu vois plus les mecs qui mettent la main devant la bouche.
Oui, non, mais, ouais, mais t'en vois encore. Ou ce que, t'as plein de choses comme ça qui se disent sur un terrain de football. Moi, alors, d'un côté, ça me fait de la peine que Materazzi s'est senti un petit peu rejeté ou
du moins critiqué,
mais,
quoi.
Mais, ouais. Voilà, mais faut qu'il fasse
une autocritique.
Il faut peut-être pour lui de le voir d'une façon différente. C'est, je pense que parce que c'était un joueur moyen, parce que c'était un joueur moyen qui a réussi un truc.
Très bon sur cette Coupe du Monde.
Qui a été extraordinaire dans cette Coupe du Monde, qui a mis un but, qui en plus, par un biais différent, a fait expulser le meilleur joueur adverse. Lui, c'est peut-être à ce moment-là qu'il a tendu, s'est dit, c'est là où je dois aller au statut de star. Et justement, c'est se tromper. Et t'as plein de joueurs, tu sais que t'as plein de joueurs de France 98, enfin de la génération, pardon, 98, qui aussi pendant des années, ont traîné une forme de spleen, parce qu'ils n'avaient pas compris pourquoi il y avait d'abord tout en haut de la pyramide, il y avait Zidane. Après, t'avais deux étages avec Barthez et Petit. Après, t'avais un troisième étage avec 5-6 mecs. Après, t'avais un quatrième étage avec 5-6 mecs aussi. Puis après, un dernier étage. Et t'as des mecs qui étaient à l'étage 3, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient à l'étage 2. Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est, je pense qu'il a espéré à ce moment-là peut-être changer de statut dans l'esprit des gens ou dans l'opinion publique et peut-être même au niveau mondial. Il a espéré ça. C'est pas venu. Et je pense que depuis, il l'a sur les épaules et c'est un poids qu'il a sur ses épaules. Après, d'un autre côté, je vais pas non plus chercher à être triste pour lui, parce que sur un terrain, c'est vrai, c'était plus un boucher qu'un joueur de foot, parce que des joueurs, il en a découpé un paquet.
Mais paradoxalement, c'était un joueur très technique.
Ballon arrêté.
Il y a Quentin qui est venu au 32-16 qui nous appelle pour la première fois l'after, son premier passage, qui voulait parler de ça justement. Salut Quentin.
Salut à tous, bonsoir, ça va?
Bienvenue Quentin.
Ça va. Je voulais revenir donc sur le sujet de Materazzi. J'étais assez d'accord avec Woody, parce que moi en 2006 j'ai 10 ans et ça reste encore mon pire souvenir, on va dire, en termes de foot. Et en fait, plus les années passent et plus je me suis dit, en fait, ce mec en Italie devrait être considéré comme un héros, parce que je pense que Daniel va s'en souvenir quand il s'est écharpé un peu avec Fred Hermel à propos de Sergio Ramos sur ça là. Et je pense que Materazzi sur l'action de Zidane, c'est un peu la même chose, en fait. Il l'insulte, mais je pense pas que Zidane va réagir de cette manière-là, en fait.
Tu veux dire, tu penses qu'il faut des joueurs comme ça pour aller au bout d'une compétition?
Ouais, moi, je pense que des joueurs comme ça, ouais, ça peut changer le cours d'un match. Et justement, je voulais savoir ce que vous en pensez, parce que est-ce que, justement, en équipe de France, par certains moments, on n'a pas manqué un peu de joueurs comme ça, un peu de vif, un peu de garce, pour peut-être changer le cours d'un match?
Bon, l'histoire, c'est qu'on a gagné la Coupe du Monde, même si on n'avait pas forcément ça.
À la seule différence pour Materazzi, c'est qu'il a déjà cette... Simone, elle a dit, il a déjà cette image de boucher, de tout ça. Ça aurait été un autre joueur qui aurait fait ça, sans avoir cette image de boucher, un autre joueur de l'équipe italienne, et qui aurait marqué le but derrière, et qui aurait aussi marqué son penalty, celui-là aurait été élevé à l'étage de star. Mais comme c'est Materazzi qui a cette image de boucher, ça ne plaît pas aux Italiens, cette image de boucher, ils ont pas pu, ça lui a desservi. En fin de compte, c'est sa carrière. C'est sa, pour lui. Moi, c'est sa carrière raconte... qui lui a des services sur ce coup-là pour ne pas être élevé à l'image de star.
Ça raconte plus la popularité d'un homme que la mentalité d'un pays. Bon, ça doit jouer également aussi. Mais là, en l'occurrence, Materazzi n'était pas aimé, populaire. Il ne pouvait pas être réhabilité par ça.
Pas
quand Sergio Ramos voilà.
Par l'Inter, voilà, il était adoré. Les supporters de l'Inter,
oui, on par l'Inter,
quand même un héros. Mais après, il avait des comptes ouvertes avec les joueurs de la Juve sur les terrains, les joueurs du Milan. Oui. Après, comme j'ai dit, quand Paolo Maldini, c'est les premiers qui te défendent après la suspension de deux matchs, ça veut dire que dans le monde du football, il y avait quand même un certain respect pour.
Mais tu
pour
vois, Materazzi, par exemple, contre-exemple.
En Italie.
Ribéry.
La question que je voulais demander à Willy, qu'est-ce que les joueurs considéraient de Materazzi? Qu'est-ce que pensaient de Materazzi? Un bon joueur, un nul, c'est
des équipes. Non, il était pas dans une Italie. Non.
Des grands stars, parce que c'était une Italie des grands stars. Et Materazzi, c'était les remplaçants de Nesta qui se blessent. Et donc, c'est lui qui rentre en jeu et finit la Coupe du Monde.
Ouais,
avec un carton rouge face à l'Australie, souvenez-vous. Parce que lui, c'est
expulsé
face à l'Australie aussi.
Quand tu joues au plus haut niveau, je te parle voilà, vraiment le plus haut niveau, donc le haut de la Champions League, les derniers matchs de Coupe du Monde, quand tu rencontres une équipe, tu ne te dis pas qu'un joueur en face est nul. Jamais. Quand tu regardes par exemple un Materazzi, le premier adjectif que va avoir un joueur de foot quand il va regarder Materazzi, il va dire oh putain, lui il est solide. Voilà. Il va pas dire oh, c'est un boucher, c'est un découpeur, il est nul, il est pas bon, il est pas technique. Non, il va d'abord dire oh, lui il est solide. Donc voilà. C'est l'image qu'avait Materazzi. Pour moi, en tant que joueur, et pourtant j'avais déjà joué contre lui avant cette Coupe du Monde, j'avais joué via des coupes dans des coupes d'Europe contre lui. J'avais pas l'image d'un mec mal aimé ou d'un. Moi c'est un mec solide. Voilà, c'est un gaillard, c'est un gaucher derrière. Il rentre, comme on disait, il met des coups de chiche, il va au duel et puis voilà quoi. Tu te poses pas forcément de
questions. Parce que tu sais que t'as besoin de joueurs comme ça dans une équipe.
Mais tu vas nous dire Lionel, c'est un inconnu. Équipe de France, Willy également, justement, puisque Quentin disait qu'on en manquait peut-être en équipe de France, en tout cas sur les 20 dernières années. Merci Quentin, bravo.
Nico, est-ce que je peux faire
bien sûr, vas-y.
Je voulais faire une petite dédicace donc à la brigade Duponche et en plus particulièrement à Jory qui est aux urgences, hein, qui travaille aux urgences à Mâcon, donc lui faire un petit coucou.
Ça marche, je les ai fait. Merci Quentin, tu reviens quand même dans l'after, bien sûr. Simonet, tu restes avec nous, on est là dans un instant. On va évoquer également la décla de Materazzi sur Mario Balotelli. Moi, elle m'a fait rire. A tout de suite.
Starfoot, Nicolas Jamma.
Willy Sagnol, Lionel Charbonnier, Daniel Riolo, bien sûr. On est là jusqu'à minuit, encore un peu moins de 10 minutes, avec Simonet Rovera qui est là également pour évoquer Marco Materazzi et sa déclaration concernant son impopularité malgré sa victoire en Coupe du Monde. Et malgré avoir été un des artisans majeurs de la victoire de l'Italie. Tiens, tu disais, Lionel, je sais pas si tu penses s'il en faut, toi, des.
Moi, je pense qu'il en faut.
Comme ça.
Oui, une équipe pour moi.
La preuve, c'est que tu peux gagner sans ça aussi. Enfin.
Tu peux gagner sans ça, mais.
Souvent, t'as des mecs, quand même, dans les équipes, je sais pas si tu prends le Real il y a toujours eu Sergio Ramos.
Ramos.
De la police.
Exactement.
Même dans le grand Barça, Busquets savait mettre le taquet quand il fallait mettre le taquet.
Ouais, mais regarde, Daniel, si vous regardez les Ramos et les Busquets, ce sont les derniers. Dans les nouvelles générations, il y a plus.
Oui, il y a moins, c'est vrai.
Tu as raison.
C'est vrai, mais je pense que tu en as besoin, Willy, des mecs qui savent.
Oui, mais tu en as besoin. Si tu n'en fabriques plus, Lionel. Aujourd'hui, si tu regardes, c'est un débat qui revient souvent, on en parle souvent, mais les joueurs aujourd'hui, je les trouve beaucoup plus gentils, beaucoup plus.
Oui, c'est vrai. Sociables.
je dirais, soit c'est plus de la naïveté, soit c'est
on en a parlé déjà.
Soit il y a moins de vices, je sais pas, c'est un des deux, voilà, on le regarde comme on veut.
Mais nous, ça faisait partie, souviens-toi, Willy, ça faisait partie de notre culture quand t'étais sur le banc, que t'étais jeune et que t'avais les vieux, qui étaient les vieux entre guillemets, les mecs plus huppés qui étaient là, les anciens, ils te disaient, attention, dans cette situation, faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Les coups de vis, ils t'expliquaient les coups de vis, comment les faire. Ouais, je te promets,
c'était culturel, bien sûr. Qu'aujourd'hui, nos joueurs contemporains, en tout cas, sont plus polissés, quoi. C'est ça.
Oui,
c'est,
sûr.
oui,
bien
c'est,
Mais tu sais quoi, j'ai Lionel, je préfère même ça aujourd'hui, tu vois.
Ah mais je dis pas que c'était mieux avant. Voilà. Hein.
Moi je préfère.
Quand t'en as un, faut pas le qu'il est bon et que t'as un Materazzi qui a la possibilité de jouer. Parce que comme tu disais, t'as parfaitement raison. Nous on pense pas que c'est un mec qui est nul, qui c'est un boucher, ceci cela. S'il est en équipe d'Italie, c'est parce que le mec il a du ballon, il sait défendre, il sait voilà, c'est un très c'est quand même à la base un bon joueur. Ça reste un défenseur. Être défenseur en Italie et faire la Coupe du Monde et être partie prenante dans les victoires, ça veut dire quelque chose. T'es quand même dans le top mondial. Donc on le sait ça. Et quand tu peux en avoir un qui est dans le top mondial, eh ben faut pas te gratter pour le prendre dans une équipe. Ma culture.
C'est pour ça qu'un mec comme Sergio Ramos. Reste encore aujourd'hui
exactement
le meilleur défenseur du monde, même si maintenant il est plus tout jeune, hein, mais ça reste
avec toute l'influence qu'il a aussi sur le vestiaire et tout ça.
Et regardez ce qu'on a dit pendant des années du PSG.
Ah oui, Thiago Silva,
pour la Coupe d'Europe il leur manquait tout le temps un mec et il suffit qu'on ait vu deux fois Paredes mettre deux tacles et venir protéger Neymar ou en gros.
Mais t'as eu Thiago Motta, Daniel.
S'affirmer.
PSG d'ailleurs.
Thiago Motta, absolument.
Mais voilà.
Depuis, justement, il y avait un déficit de ce côté-là où t'avais des mecs qui étaient jugés trop gentils. Il a suffi que deux fois Paredes s'affirme comme le porte-flingue de Neymar ou vienne mettre deux, trois taquets ou qu'il y ait la polémique avec les Montpelliérains, qu'on dit que c'était une petite garce Paredes et tout. Ça a plu à tout le monde. Et d'un coup, même ce gars-là a eu une forme de. Pas que pour ça.
Mais t'as raison.
Il y a eu une forme de popularité dans le vestiaire, en disant, bon, bah, tiens, lui, il va nous mettre les taquets au milieu. On manquait de ce profil-là. Donc, même si c'est plus vraiment à la mode, Willy, néanmoins, c'est quand même un peu utile. Je sais pas.
Je parle pas de l'utilité ou de l'inutilité. Moi, je pense que, comme Lionel, comme toi, je pense que c'est utile. Ouais. Je dis juste qu'on en fabrique de moins en moins des joueurs comme ça.
C'est vrai.
Donc, voilà.
C'est vrai.
Parce que regarde, si on les fabrique, ou s'ils sont comme ça, et l'entretien, c'est.
Ouais, je sais pas si ça
regarde
se fabrique.
Ça se fabrique. Ça se fabrique.
Qui c'est pour ça À Auxerre, c'était qui, Lionel? À Auxerre, c'était qui le mec qui distribuait un peu là, au milieu?
En milieu de terrain, on avait Daniel Dutuel aussi qui en mettait, mais Dutuel, qui était aussi un très beau joueur en même temps.
Oui, c'était un très beau joueur de foot.
Bon, nous à Auxerre, c'était un peu à toutes les lignes qu'on distribuait du bois.
Oui, après, derrière, quand t'avais Beaulieu, quand t'avais Prunier.
Déjà, fallait passer l'attaquant. Si t'avais évité l'attaquant, t'avais deux milieux qui venaient de prendre. Si t'avais passé le milieu, t'avais des arrières qui étaient derrière. C'était compliqué quand même de nous passer.
Mais souvent, le 10 chez vous, il était un peu en fauteuil. Souvent, le 10, il était un peu en fauteuil. Les ailiers aussi, et puis c'était ailleurs.
Voilà, c'est ça.
En fait, c'est exact. Ça. Il faut des joueurs fins techniquement, subtils, protégés par des bad boys. L'alliage
un petit peu
l'alliage,
ça.
Souvent mal, c'était ça.
C'est comme la cour de récré, quoi. Tu vois le.
Non, mais c'est un groupe. Mais parce que tu vois, encore une fois, je dis tout le temps que le football, c'est le microcosme de la vie. Mais c'est pareil dans la vie. Si t'es trop gentil, si t'es trop, tu te fais bouffer. Et ben sous le terrain, tu te fais bouffer. Et je suis complètement d'accord avec ce que dit Daniel, avec Paredes quand il a commencé à sortir le canif et le coupe-coupe, parce que c'est fallait se rebeller, il a plu parce que t'as besoin de mecs qui ont la grinta, voilà. Parce que derrière ça t'amène quelque chose.
Mais
et ces mecs-là tu peux pas. Mais tu sais pourquoi on en a plus? Parce que aussi
attention, l'arbitrage a changé. Il faut quand même préciser.
Non, mais c'est aussi dans la formation, dans notre formation.
Attendez, aujourd'hui, je vous le répète, il faut être deux fois plus malin. Regardez, et alors c'était, je ne vais pas dire votre époque, mais même si tu regardes toi Lionel Louis, années 90-80, tu voyais des fautes sur le terrain, tu voyais des tacles qui prenaient à peine carton jaune. Aujourd'hui, pour la moitié de ça, t'es dehors.
En Angleterre, notamment, on a pas de Wimbledon l'autre jour, c'était exactement ça. Quoi.
Les règles ont évolué, ouais, bien évidemment.
Bien sûr, évidemment. Aujourd'hui, tu passes pas au travers. Hein.
Non, mais parce que les gens veulent voir autre chose aussi. Paredes contre Dortmund, c'est très bien ce qu'il a fait, mais Paredes, s'il n'y avait pas eu Thiago Silva de blessé et Verratti de suspendu, bah Paredes
il aurait peut-être pas joué.
T'as
raison.
Voilà.
Mais il n'empêche que peut-être que comme ça, il a gagné sa place aussi. Il a peut-être gagné sa place. Il a envoyé un message. Neymar, ça lui fait plaisir d'avoir un garde du corps. Il en a besoin en plus.
Et puis ça fait vibrer les supporters aussi également, tu vois.
C'est souvent les choix.
Mais parce que c'est la beauté aussi.
Tu as plus d'expérience que moi, mais souvent les circonstances font qu'un mec peut gagner une place. parce que l'entraîneur est pas totalement libre de ses choix, parce que parfois il y a des statuts, il y a des difficultés, et parfois les circonstances offrent un choix qui ensuite perdure.
Non, mais de façon à un moment donné, soit tu te fais une place dans une équipe, soit tu passes du statut de remplaçant à titulaire, soit parce que tu arrives d'un autre club. Tu te fais toujours une place par rapport à une circonstance. On a tous démarré en Ligue 1, par exemple, parce que le titulaire était blessé ou suspendu. Parce qu'il y a toujours un concours de circonstances. Voilà, mais après, ça c'est aussi... Alors moi, j'ai jamais été trop tendre avec Paredes, parce que je trouve que sur ce qu'il avait montré les 8 premiers mois,
il progresse beaucoup, il n'était pas en confiance. Il avait besoin d'être en confiance.
Oui, mais un mec que t'achètes 50 millions, tu attends quand même
ça,
que ça vienne un petit peu avant.
Ça, lui, il n'est pas pour grand-chose, Willy. C'est pas lui. À un moment, au PSG, les prix, ils explosaient. Même un café, il le payait 15 euros.
Non, mais moi, que ça soit sa faute ou pas...
Il y a des coins en Paris, autour de Paris, où tu payes 15 euros ton café, Daniel.
15 euros le café, c'est cher.
Voilà, les gars. Willy.
Non, mais c'était juste pour dire voilà que il avait pendant 8 mois ça avait été dur et que là il m'a fait changer un peu d'avis sur lui.
Eh ben voilà. Merci Daniel.
Messieurs, bon week-end.
Merci Lionel.
Ciao.
Et
ciao à tous.
Salut les gars.
Et Simone, merci à toi. Désolé Simone. Hein.
Ouais, on parlera de Materazzi Balotelli une autre fois.
Voilà c'est ça. Allez, bonne soirée à tous.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.